Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, et nous te rendons grâce parce que, au-delà de tout ce que nous pouvons croire, penser, dire, tu es plus que ce que nous voyons. Nous avons tendance à te limiter dans nos expressions, dans nos pensées, dans notre foi. Nous avons tendance, Seigneur, à te dire ce que tu dois faire pour nos vies alors que, théoriquement, nous sommes morts et ressuscités en Christ. Mais nous savons une chose, éternel Dieu, c'est que tu regardes au cœur. Et seuls les cœurs t'importent. Alors merci Seigneur. Alors juste avant de vous expliquer un peu ce qui s'est passé, je tenais simplement à dire que les deux paroles prophétiques qui ont été annoncées, celle de Georges et celle de Jérémie, celle de Georges, elle est dans le témoignage, celle de Jérémie, je la connaissais depuis 15 jours. Pour résumer celle de Jérémie, je suis désolé, mais la parole générale veut dire abdication. L'Église a abdiqué. Voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, on verra sa part. Mais depuis 15 jours, ce mot vient. Mon épouse est la seule à savoir. Et le mot abdiquer résonne fortement. Sinon, il est vrai qu'une semaine, ça passe très très vite. Et parce que l'Église a prié pour moi, j'ai dit, Seigneur, je me dois de les honorer, de leur dire au moins ce qui s'est passé, parce que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous partager, même si vous n'étiez pas là, parce que c'est un message, en fait, sur la Pâque, de 45 ans de conversion. J'ai eu le privilège ou la chance de pouvoir prêcher le jour de Pâques. Ça ne s'est jamais fait. Et là, on m'a donné l'opportunité de prendre le programme en main pendant 3 jours, et tout de suite, le Seigneur m'a donné le thème, c'était vivre pour donner la vie. En fait, il faut d'abord vivre pour donner la vie. Mais le mot vivre, c'est tout dépend de cette situation. Et donc, chaque jour, le vendredi, le samedi et le dimanche, il s'est passé quelque chose. Il y avait le fil rouge, le mot conducteur pour chaque jour, afin que même celui qui éventuellement n'était pas là le vendredi, alors Dieu a fait grâce parce que tout le monde était là les 3 jours, gloire à Dieu, comme ça il n'y avait pas d'incompréhension sur le vendredi, le samedi et le dimanche. Et moi-même, je me suis étonné quant à ce que le Seigneur me donnait. Si bien que quand je suis arrivé là-bas, le programme a démarré le vendredi, moi le jeudi, le Seigneur me parlait de l'Église. Et je commençais à voir, comme vous savez, un médecin, quand il fait un diagnostic du malade quand il vient, un bilan sanguin. C'est comme si j'avais entre les mains le bilan sanguin et que je traduisais les problèmes, les carences et tout de l'Église. Et comme le Saint-Esprit me disait, tu sais, tu es comme un médecin, un prophète. Et je voyais exactement toutes les carences, tous les problèmes, tous les besoins de l'Église. Et il me donnait l'ordonnance, c'est-à-dire le médicament, le traitement, pour ceux qui veulent bien le prendre. Et une des paroles, alors, je vais essayer d'aller plus vite parce que je n'ai pas donné les versets à lire, mais c'est dans Luc 13, 31, 32, par exemple, je leur ai dit, voilà comment va se dérouler la situation de ces 3 jours. 13, 31, 32. Vous savez, il est dit que les pharisiens ont interpellé Jésus parce que Hérode voulait lui faire la peau. Et il dit, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais les guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Quand j'ai reçu ça spontanément, je me suis dit, mais c'est ça, vendredi, samedi, dimanche. C'est la Pâque. Je chasse les démons, je guéris les malades aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'en aurai fini. Et à partir de là, tout a commencé à être développé. Et puis Philippe t'a dit beaucoup, beaucoup de fois le mot conscience, donc ça m'a réjoui ce matin, tout ce que j'entendais permettait d'étayer ce que je vais vous dire. Et en fait, tout a commencé quand le Seigneur me dit clairement, la conscience est défaillante. La conscience est défaillante. Et vous savez qu'à un moment donné, quand Jésus a rendu l'esprit, il est dit que le même centenier qui a reconnu, qui avait une foi plus grande qu'Israël n'en avait. Le centenier a dit, quand il a vu Jésus, il a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Et vous savez, quand le Saint-Esprit commence à appuyer sur quelques mots, ne laissez pas tomber, allez fouiller, plongez dans la parole de Dieu, laissez-vous entraîner par le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il vous révèle pourquoi vous avez des mots qui viennent comme ça. Et je finirai par 1 Timothée 1, 18-19, qui est clair, c'est, il dit, il parle de la foi à Timothée, mais en fait, il y a une parole qui va résonner, qui dit, la recommandation ou le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Conscience et foi, j'ai vu, et dans la parole de Dieu, c'est bien marqué, elles travaillent ensemble. D'ailleurs, il dit, tu as dit, approchez-vous du trône de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, un cœur pur, d'une mauvaise conscience et un corps lavé d'une eau pure. Donc, j'ai dit, Seigneur, la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, la conscience, c'est le moyen où le Saint-Esprit utilise pour parler au cœur. Il parle à travers la conscience. Or, si ta conscience est mauvaise, ton cœur est mauvais. Puisque tu n'arrives pas à discerner ce qui est bon ou mauvais. Ou tu n'arrives pas à essayer d'établir le contact entre la volonté de Dieu ou pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Qu'est-ce que l'Église est en train de vivre? Mais en même temps, j'entendais Dieu parler à l'Église où j'étais, à Cayenne, mais en même temps, je pensais à vous et je pensais à plein d'autres Églises. Comme ça, ça venait spontanément. Et je commence à comprendre des versets qui sont très compliqués dans la parole de Dieu, qu'on ne veut pas entendre. On est honnête, moi personnellement, j'aime pas ce verset. Parce qu'il est, il est trop dur. Dans Matthieu 15, il est dit au verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Je n'aime pas ce verset, parce que c'est la vérité. Ma conscience me le dit. « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes et des commandements d'hommes. » En fait, quand je disais « Mais Seigneur, pourquoi moi je te loue et je t'adore ?» Mais avec mon intelligence, avec un réflexe, mais mon cœur ne croit pas ce que tu dis. Ça veut dire exactement ça. Tu dis, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu vainqueur, tu as vaincu la mort, mais mon cœur te dit, non, c'est pas vrai, parce que ma conscience me dit autre chose. Et quand j'entendais ça, je développais ça le vendredi, j'amenais à mes frères et sœurs, je dis, mais si ta conscience n'est pas juste, n'est pas droite, comment tu peux savoir si ce que tu fais est agréable à Dieu ou pas? C'est ça. Et puis je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais un bilan sanguin de ma propre vie et fais un check-up de tout ce que j'ai vécu depuis 45 ans et montre-moi la réalité de ma vie, là où j'ai été défaillant et que j'ai voulu mettre cette défaillance sous un tapis. Et après Dieu dit, mais moi j'aime pas les choses cachées. Et je vais révéler, mettre en lumière tout ce qui est caché. D'ailleurs, il le fait aujourd'hui dans les églises et on voit de nombreux scandales dans l'église. Alors, il faut que j'avance là ou là. La conscience de l'état de notre cœur. Est-ce que, moi je disais, Seigneur, est-ce que le cœur est disposé à vivre ou non? Mais bien sûr j'ai envie de vivre. Ben non. Non, je suis désolé. Mon fils, je ne sais pas s'il y a des fois tu as envie de vivre. Parce que si tu as envie de vivre, tu n'aurais pas ces murmures et ces pensées contraires contre ton frère ou ta sœur. Déjà le fait que tu pointes du doigt un frère ou une sœur, le Seigneur me disait, t'es sûr que t'as envie de vivre? Alors, c'est là où il y a quelque chose de merveilleux, parce que dans la bonté, Dieu met toujours quelque chose de super. Il révèle une situation pour donner une explication claire qui nous fait du bien lorsqu'on commence à mettre la foi en action. Donc, disposé ou non à vivre à travers le nom de Jésus. Et là, insistance du nom de Jésus. Et pourtant, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, le nom de Jésus revient dans les champs. Et il me dit clairement, dis-leur s'ils ont conscience que je les ai adoptés. Est-ce que vous avez conscience que Dieu vous a adoptés? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu adopte quelqu'un? Ou dans la vie de tous les jours? Il y a un acte de naissance qui est créé avec filiation. C'est-à-dire que ou le livret de famille, quand vous prenez le livret de famille ou l'acte de naissance, il est marqué qui est celui qui t'a adopté, ou qui est ton père, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour quelqu'un qui a adopté? parle pas pour quelqu'un qui naît, quelqu'un adopté. Qu'est-ce qui se passe? Il prend le nom de celui qui l'a adopté. Et là, je commence à dire, Seigneur, on va où là? On va où comme ça? Eh bien, il est très simple. Il m'a rappelé le Notre Père. Et il a dit, je veux que tu fasses une petite intervention personnelle. Et je répétais ça à l'église, et là, beaucoup de personnes ont ouvert les yeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom que je porte soit sanctifié. Voilà ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. Je répète. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom que je porte soit sanctifié. Et là, il m'a dit, tu te calmes, tu t'arrêtes, et oh, tu es conscient de ce que tu es en train de dire? En fait, nous disons au nom de Jésus. Or, nous portons ce nom. Et à partir de là, il m'a montré combien de fois j'ai profané ce nom. On trouve ça dans Ézéchiel 36, où Dieu a un problème avec le peuple de Dieu parce que son nom a été profané au lieu d'être sanctifié. Mais la promesse que Dieu fait, il dit, maintenant, tout à nouveau, sous, aux yeux des nations, mon nom sera sanctifié par votre attitude. Mais il va falloir d'abord vous en preniez conscience. Et à partir de là, il mettait en lumière des situations dans la vie de l'Église qui fait que les gens comprenaient qu'est-ce qui ne plaisait pas à Dieu. Le simple fait qu'on ne comprend pas la sanctification met un problème dans notre conscience. Parce que, au nom de Jésus, lève-toi, mais tu viens de 30 secondes de profaner mon nom. Et vous savez comment on peut profaner le nom de Dieu? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune foi dans ce que l'on dit. Il n'y a pas de foi. En fait, le problème, c'est que l'intelligence ne descend pas dans le cœur parce que la conscience ne l'y aide pas. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur veut purifier notre cœur d'une mauvaise conscience. Et des fois, ce que fait l'ennemi, il dit, mais non, tu ne peux pas parce que tu n'es pas en état de faire ce que le Seigneur te demande. Et il commence à inciter, à culpabiliser, à condamner. Alors, pendant ce vendredi, j'ai expliqué ça. Que ton nom soit sanctifié. Et on rentre, on avance, parce que sinon ça serait trop long. Et le samedi soir, une fois que les gens ont commencé à prendre conscience, bon, le vendredi soir, il y a eu une forte repentance. Et j'ai mis en lumière l'esprit de pauvreté. Mais l'esprit de pauvreté n'est pas lié à l'argent. L'esprit de pauvreté, c'est exactement quand quelqu'un abdique. C'est-à-dire qu'il capitule et il dit, je vais vous le dire en toute honnêteté, les Goliaths que vous avez, vous leur avez pas tranché la gorge. Beaucoup sont venus, vous savez, comme le mouvement de foule. Ils ont vu leur Goliath. Ça, c'est... Allez. Et donc, le samedi soir... Cette parole résonnait depuis déjà un mois, quand j'ai préparé ce temps avant d'aller en Guyane. Et il y a une phrase du Seigneur, et moi j'aime bien les phrases qui percutent. Moi elles me plaisent parce que là encore ça m'aide à aller plus loin. Et le Seigneur me disait, qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu? Qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu? Vous êtes conscience de ce que ça veut dire? Parce que le mot conscience, il va revenir. Hein. En fait... Tu es censé me louer et m'adorer, en esprit et en vérité, parce que moi je m'occupe de ta vie. Si tu t'occupes de mes affaires c'est sans simplement l'adoration, car celui qui est né nouveau m'adore en esprit et en vérité. Et moi je m'occupe de toi. Donc il me répétait, qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu? Ça, vous comprenez un peu la force qu'il peut y avoir dans les lieux célestes, parce que tout a été fait dans les lieux célestes, mais tout doit descendre sur le terrestre. Or, dans le terrestre, il y a nous. On est l'obstacle numéro un. Le peuple de Dieu est l'obstacle numéro un à la gloire de Dieu. Donc, tout ce que je vous le dis avant que même je le répète à l'église, j'en prenais plein la figure. Hein. Et donc, à travers là, c'est qu'as-tu à combattre? Quelle délivrance? Quelle guérison? Quelle libération? Alors, il y a des réalités quand on est agressé, quand on est attaqué, quand on tombe malade ou quand on a des persécutions, des tribulations. Ce n'est pas le fait de dire « je le dénie », ce n'est pas le fait de dire « c'est pas vrai ». C'est qu'en fait, quand une situation contraire arrive, sachez déjà qu'elle a été réglée dans le ciel. Il faut que ce soit une formalité sur la terre. Mais entre une formalité sur la terre, il faut encore que notre conscience dise « c'est vrai ce qu'il dit ». C'est vrai ce qu'il dit. Alors la première chose que fait le Seigneur, c'est de régler le problème de la conscience. D'ailleurs, souvent, jeune chrétien, je disais « oh, il a dit ça inconsciemment ». Vous savez, il dit, Oh, il s'est moqué de la personne, mais c'était inconscient. Non, 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 non. Là encore, le Seigneur me disait, quelqu'un qui est né nouveau est conscient de tous ses actes. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Alors, Jésus, le samedi matin, dans l'Esprit, il est descendu récupérer les clés au séjour des royaumes de Dieu, des morts. C'est pendant ce temps, cette journée, que Dieu est venu vaincre, guérir, libérer, délivrer. Mais c'est là où j'ai compris encore un truc, c'est que pendant ce temps, Dieu fait quelque chose qu'on n'est encore pas conscient ou ne comprend pas. Il cherche à anesthésier notre intelligence. Il dit, je ne peux pas travailler avec une intelligence qui est contraire à mes pensées. Il dit, il y a un souci. Donc, il anesthésie l'intelligence et nos pensées. C'est pour ça que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'il dit, je travaille qu'avec ton cœur, qu'avec mon esprit. Et quand le Seigneur anesthésie, il laisse la place à la foi. Et il y a quelque chose encore où Dieu m'aide à comprendre des choses plus rapidement. Bon, Romains 10, 17, vous comprenez que c'est encore un des versets que j'ai à cœur depuis plus d'un an. Or, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et là encore, on répète, et le Saint-Esprit arrête. Tu es conscient de ce que tu dis ? Alors, il me pose une question toute simple. Alors, moi, je vous la pose, comme il me l'a fait. D'où naît la naissance, d'où naît la foi ? Ben, il y a la réponse hein, dans le verset. Hein. La naissance de la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Voilà. Voilà l'origine, d'où la naissance de la foi. Et alors, il me dit, ben, simplement, tu veux comprendre ? Ben, remplace le mot foi par Jésus. Alors, si on prend Hébreux 11, vous allez voir que des fois, c'est beaucoup plus simple. La conscience, elle ne peut pas nous rouler dans la farine. Si vous prenez Hébreux 11 et que vous remplacez certains mots, ça, moi, ça m'a aidé. Or, on connaît la foi est une ferme assurance, d'accord ? Mais si on dit, or, Jésus est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'en voit pas, quand vous mettez Jésus à la place de foi, vous dites, oh, ça parle mieux. Et quand vous entendez le verset 6, or, sans Jésus, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ton intelligence et ton cœur, c'est différent, parce que ta conscience dit autre chose. Tu m'honores de tes lèvres, mais tu ne crois pas que Dieu existe. C'est ce que dit hein, la parole. Ce que j'aimais, c'est que chaque fois que j'amenais quelque chose, il y avait c'était étayé par la parole de Dieu. Il est dit, or, si on dit, or, sans Jésus, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est paradoxal, parce que si je m'approche de vous, c'est parce que je crois que vous êtes vivant. Si je veux discuter avec mon beau-frère, il est là, je sais qu'il va me répondre. Mais si je m'approche, vraiment intelligent, et en même temps mon cœur me dit, mais t'inquiète pas, il n'est pas là. Il y a un souci là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je m'approche de Dieu, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, je vais lui demander un renseignement, un conseil, mais je ne crois pas qu'il est capable de me répondre. Pourquoi j'irais lui demander ? Puisque je suis persuadé qu'il ne répondra pas à mes attentes. C'est profond, hein ? Mais moi, j'aime pas ce verset. Je vous répète, j'aime pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est où ? Mais c'est du cœur que viennent les adultères, les meurtres et compagnie. Bon. C'était dur, mais en même temps, j'expliquais ça. Et donc, je me réjouissais. Et ce soir-là, si tu étais là, Georges, tu aurais compris ta parole. Alors, il dit, si je guéris et je chasse les démons aujourd'hui et demain, et que troisième jour, j'en aurai fini, il dit, prendre conscience que la foi ne vient pas de l'homme. Et ça, je l'ai compris, par contre. C'est Jésus qui suscite la foi. Hébreux 12. C'est lui qui suscite la foi pour l'amener à la perfection. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas lui-même avoir la foi. Ce n'est pas possible. Alors, si c'est Jésus qui suscite la foi en nous, il met des situations qui vont se révéler à un moment donné. Ce qui est dans le ciel va se répertorier, se répercuter et se voir sur la terre. Alors moi, je soupire pour que tout ce qui est dans le ciel se voit sur la terre, mais ça dépend toujours de nous. Or, cette femme, il est dit que, après avoir, qu'on sait tout ce qu'elle a fait, qu'elle a dépensé son argent et qu'il n'y avait rien eu, elle dit, il est dit dans la parole de Dieu, cette femme entendit parler de Jésus. De la même façon que la foi vient de ce que l'on entend. Or, je suis persuadé, j'en suis convaincu que le Seigneur avait déposé la graine de foi, la semence de foi dans le cœur de cette femme. Et dans la situation où elle vivait, il était impossible qu'elle s'approche. Parce que si quelqu'un découvrait qu'elle était impure, on la chassait. Et donc, elle est venue par derrière. Donc, comprenez bien qu'il y avait une forme d'audace dans cette femme. Une sorte de conviction qui fait que tout obstacle ne pouvait pas l'empêcher d'arriver jusqu'à Jésus. Et donc, j'essayais prophétiquement d'amener ça à l'église. Les gens commençaient à prendre conscience et spontanément, vous savez ce qui s'est passé ? Ils se sont passés exactement parce que Jésus a senti une force le toucher, parce que la femme s'est élevée, elle a dit, si du moins je ne pouvais, elle ne savait pas que c'était la foi, elle, hein, elle ne comprenait rien, mais il y avait quelque chose en elle qui lui disait, chope le manteau de l'homme qui guérit les malades. Elle dit, cours, elle est allée, elle a percé, elle a poussé les gens. Il y a une foule dense jusqu'à toucher, si serait-ce. Alors, en hébreu, c'était les tlitsites, c'est les petits pompons de... Si je peux toucher ça, simplement. Mais la femme, elle a été poussée par une force intérieure qui s'appelait la foi, mais qui n'avait pas de connaissance. Mais Jésus, c'est ça qui est merveilleux. Il dit, qui m'a touché ? Tous les disciples reprennent Jésus. Et on est où les premiers ? Mais la foule, et tu dis, qui t'a touché ? Il dit, je veux rien. Mais pourquoi Jésus a dit ça ? Parce qu'il voulait mettre en évidence... la personne, parce qu'il a dit « qui est celle qui m'a touché ?» Il n'a pas dit « qui ?» Donc il savait que c'était une femme. Et il a voulu qu'en fait cette femme soit non pas démasquée ou dévoilée, mais que cette femme prenne conscience d'exactement ce qu'elle a fait. Elle a pris conscience parce qu'elle est venue à genoux en disant tout ce qui s'est passé, elle a révélé. Donc elle a dit publiquement devant toute la foule qui elle était. Impure, mais il y avait quelque chose, une force en elle qui lui a dit « attrape le vêtement de cet homme et tu seras guéri. » Et Jésus répond, ta foi t'a guéri. Et tu es, non, ta foi t'a sauvé et en même temps t'es guéri. Une pierre deux coups. Comme c'est Jésus qui suscite la foi, cette femme n'était pas au courant. Il y avait quelque chose en intérieur qui a fait qu'elle n'a pas abdiqué. Mais qu'elle a dit, qui que ce soit devant moi, il peut y avoir autant de légions romaines que je passerai à travers. Ou des légions démoniaques. Et c'est ce qui s'est passé. Et les gens, spontanément, se sont levés, courir après Jésus et proclamer qu'ils étaient guéris publiquement. C'est ça, la conscience. C'est ça, ce qui s'est passé quand Jésus est venu chercher les clés du royaume, des royaumes des morts, en disant à tous les démons, vous pensiez que vous m'aviez vaincu, je suis vivant, mais vous, là, vous, dans quelques temps, il y a tribunal. Et votre compte, là, il est réglé. Donc, il y avait cette audace, cette force qui s'imprégnait. Et puis, on va aller encore plus vite. Allez, on saute. On passe à dimanche matin. On passe à dimanche matin. Et là, c'était terrible parce que, après avoir pris conscience de qui l'on est, de la puissance du nom de Jésus par notre sanctification, il y a eu des guérisons, des délivrances. L'esprit de pauvreté. Vous savez ce que c'est que l'esprit de pauvreté ? C'est pas simplement l'argent. C'est pauvre dans les dons, pauvre dans le ministère, pauvre dans la foi, pauvre dans les consécrations, pauvre dans la considération, pauvre dans la miséricorde, pauvre dans la compassion. En fait, on dit qu'on est bon à rien, en fait, et qu'on ne mérite rien, et qu'en fait, Dieu s'est trompé. On a la même attitude qu'avait Moïse quand il a commencé à dire « mais tu t'es planté de bonhomme, va chercher quelqu'un d'autre ». Et à partir de là, il y a eu le dimanche, et j'en ai fini. Vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre le vendredi, un tremblement de terre le dimanche, ça fait deux tremblements de terre. Dans le premier tremblement de terre, c'était les morts récents ont ressuscité. D'accord ? Parce que la vie, la mort ne peut pas tenir, même au moment où Jésus rend l'esprit, c'est là où justement il y a la puissance qui est manifestée. Les gens n'ont même pas fait attention. Ils se sont baladés dans Jérusalem, mais il y a eu un deuxième tremblement de terre, c'est celui qu'ont vécu les gardiens romains. Et peut-être à travers ce tremblement de terre, c'est là où justement la roue a été roulée par un ange, mais il y a eu tout quelque chose de spirituel qui s'est passé. Et c'est là où, alors là, il a fallu prendre le temps d'expliquer, la résurrection des promesses de Dieu et une prise de conscience que ces promesses en haut doivent descendre. Alors vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont abdiqué quant à leurs enfants qui sont partis et qui ne voient pas revenir. 30 ans où on prie pour les maris ou pour la femme, ou la promesse de Dieu pour telle chose, et on est fatigué, et on rend les armes. Mais à partir de là, je dis, Seigneur, pourquoi en étant fatigué, pourquoi doit-on baisser les armes? Une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, le domaine prophétique, l'ennemi cherche à l'étouffer complètement, parce que c'est le domaine prophétique qui met en lumière toute situation. C'est biblique, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le ministère prophétique, il est en sourdine. Et il dit, le Seigneur me disait, pour certains, il y a eu un encensement, mise de la graine. Sauf que pendant que le Seigneur a mis la graine, certains ont fait des fausses couches. Tout de suite, entre le premier et le deuxième mois, c'est là où il y a les fausses couches. Pourquoi? Parce que si vous regardez la semence qui est tombée dans le terrain rocailleux, il est dit que d'un coup, la semence, il y a eu la, comment on appelle ça, fécondité. Il y a eu un bébé pendant un ou deux mois, donc il y a eu vie. Sauf que les tribulations et les persécutions ont fait que, au bout d'un ou deux mois, on perd l'enfant. Et le Seigneur me dit, il y a certains qui arrivent à 3, 4, 5 mois, font des fausses couches, parce que mauvaise hygiène de vie spirituelle et attitude non conforme à quelqu'un qui est enceinte. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire du cheval au galop et tout lorsque vous avez un enfant, surtout si jamais il faut faire attention et que le médecin vous recommande d'être tranquille. Donc, il y a un excès de zèle qui fait que la conscience te dit « Vas-y, mais c'est le Seigneur qui a mis la semence en toi, il l'amènera jusqu'au bout. » Sauf qu'il y a une sagesse à avoir. Et on ne prend pas en considération ce que Dieu a fait. Et on méprise un peu cette situation. Et puis, il y a la partie des gens qui avortent. IVG, interruption volontaire de grossesse. Pour faire court, tout ça, c'était lié à Ésaïe 26. Il faut le lire parce qu'il faut comprendre la situation. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans l'état. Je vais le lire. Et essayons de prendre conscience de ce qui est marqué, selon l'Esprit. 26:15. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple et manifeste ta gloire. C'est quand même le désir du cœur du peuple de Dieu, en même temps de Dieu, de voir une croissance dans l'Église. C'est le but, c'est la croissance. C'est pas la décroissance, c'est la croissance. Et Dieu rajoute chaque jour ceux qu'il a sauvés dans l'Église. Ça, c'est une vérité. On l'oublie, il y a un problème. Recule les limites du pays. Ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui envahis Canaan. Et chaque fois, tu nous dis d'avancer pour prendre le pays promis. Tout seul que ton pied foulera, je te le donne. Sauf que si on reste dans la moquette, on n'ira pas plus loin. Et il dit, c'est là que c'est terrible. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Et ils se sont pendus en prière quand tu les as châtiés. C'est toujours dans les moments difficiles qu'on cherche Dieu un peu plus profondément parce qu'on ne supporte pas la situation. Mais quand tout va bien, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et ces pays... Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Et voilà un moment de résurrection dans les passages prophétiques comme ça. Si vous lisez à la ligne, ça va aux oubliettes. Mais là, il y a une résurrection entre le 18 et le 19. Vous savez ce qu'il est dit? D'un coup, que tes morts revivent et que mes cadavres se relèvent. Mais si vous lisez par l'intelligence, vous passez à travers tout. C'est prophétique. Il dit que tes morts revivent et que mes cadavres se relèvent. Il y a une séparation. Et il dit, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. Et à ce moment-là, on a commencé à prendre conscience, justement, que beaucoup, parce qu'ils ne croyaient pas, qu'ils n'avaient pas la foi, quand Dieu a mis la semence, elle n'est jamais arrivée au bout. Et quand elle est arrivée au bout, parce qu'ils n'y croyaient pas, la gestation s'est finie, et quand ils pensaient être finis, ils n'ont enfanté que du vent, parce que Dieu n'avait pas mis la semence dès le départ, ou parce qu'entre-temps, il y a eu une fausse couche, ou après, il y a un avortement. Et après, on est découragé, parce qu'au bout d'un certain temps, on pense qu'on a enfanté quelque chose qui n'existe pas. Or, quand Dieu met la semence, il nous le dit. Et nous, nous disons, Seigneur, tu t'es trompé, mon cœur n'est pas fertile, parce que mon cœur est comme ci, comme ça. Dieu dit, laisse-moi purifier ton cœur, que je puisse l'ensemencer, afin que tu puisses porter du fruit au centuple. Vous savez comment on avorte? C'est toujours par rapport, il y avait le terrain rocailleux, puis le troisième terrain, c'est celui où il y avait les ronces et les épines. Comment traduit Jésus ça? Par des soucis de la vie, mais aussi par les séductions du monde. En fait, Dieu dit, ton enfant que j'ai enfanté en toi, en fait, ta promesse ne peut pas aller à terme si tu ne mets pas un terme au regard sur le monde, aux séductions du monde, aux richesses de ce monde, à la convoitise de ce monde, aux tendances de ce monde, à la mode de ce monde, et tu veux en même temps que je mette en lumière un enfant qui va naître dans le compromis. Dieu dit, il y a un problème. Alors nous, on dit, mais non, le Seigneur est tout puissant, il est tout vivant. Et le Seigneur s'est déjà retiré, la main s'est retirée. Hein. La main s'est retirée. L'enfant arrive, mais il est mort. C'est un enfant mort. Parce que nous avons fait une interruption de grossesse. Quoi? Comment? Parce que c'est nous qui avons fait que Dieu a retiré sa main. C'est pas lui qui l'a fait, c'est par notre comportement. Par les richesses et la séduction, tout ce qui étouffe fait que ce sont les avortements. Mais dans sa grâce, et je finis, il dit tout à nouveau, je veux ensemencer. Et il a dit comme ça, il disait comme ça à l'Église, je vous fais une promesse, et ça, si je l'entendais, je vous fais une promesse que tout ensemencement, je vérifierai sa gestation jusqu'au bout, afin que naisse un enfant en bonne santé. Et il disait, je vous fais une promesse que je donnerai tout ce qu'il faut pour que l'enfant grandisse. Et il croit à tous égards, comme dans Luc 1, par rapport à Jésus. Il dit, je ferai tout, si du moins tu le crois. Si du moins tu fais de ta vie une consécration et quelque chose de sanctifié. Si du moins tu acceptes que je te corrige. Parce que là, si je répète pour finir, il est dit, l'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Pourquoi attendre de nous laisser châtier? Or, je sais très bien que Dieu châtie celui qui aime. Sinon, s'il ne nous châtie pas, nous ne sommes pas considérés comme des fils. Et si nous ne sommes pas ses fils, nous n'hériterons pas. Hébreux 12. Donc, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, je vous garantis qu'il y a eu des personnes, et là, il ne fallait pas que quelqu'un d'incrédule vienne. Parce qu'ils allaient dire, cette église, elle est fêlée. Hein. Elle est fêlée. Oh, écoutez-moi les femmes, vous étiez en train d'accoucher. Ça hurlait. Ça hurlait. Comme les accouchements. Alors heureusement qu'il y avait, j'avais jamais vu ça de ma vie. Dans l'esprit, je voyais des anges, comme des anges, sages-femmes et sages-hommes, qui venaient aider, mais ce n'était pas possible. Des hommes qui criaient, en même temps qu'ils se repentaient, qu'ils prenaient conscience qu'en fait Dieu avait ensemencé leur vie, mais qu'ils ne voulaient pas. L'ennemi ne veut pas qu'il aille jusqu'au bout. Donc il va vous faire croire que vous êtes incapable, que vous n'êtes pas sain et tout. Alors, bien sûr qu'il y a des attitudes de cœur, j'ai dit l'hygiène de vie, fait que si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu et si vous n'êtes pas en relation avec Dieu dans l'esprit, c'est clair que vous ne comprendrez pas grand-chose. Parce que c'est la première chose que Dieu dit, c'est de réveiller la relation qu'il y a entre lui et nous. Mais quand j'ai entendu au final Malachie 3 qui disait que Dieu a dit « Certains d'entre vous ont avorté » en disant « Qu'avons-nous, pas qu'est-ce qu'on va, hein, qu'avons-nous gagné à t'avoir servi » C'est-à-dire qu'il y a eu un bilan, ils ont fait un état des lieux, ça fait 30 ans que je marche avec toi Seigneur, maintenant je fais le calcul, résultat positif, zéro. Qu'avons-nous gagné à te servir et à marcher avec tristesse pour l'éternel des armées? C'est l'abondance du cœur hein, qui parle. Parce que ces gens-là parlaient à Dieu. Et le problème, c'est quand on abdique, c'est parce qu'on fait un bilan de notre vie et on se dit, ça fait tant d'années que je te sers, Seigneur. Ben, j'ai rien gagné. Oh, tu es vivant, non? Le vendredi, prise de conscience. Le samedi, guérison, délivrance, libération. Et le dimanche, il y a eu des résurrections d'enfantement. Les gens voyaient leurs enfants revenir, promesse de Dieu, ou mari et femme, ils les voyaient dans l'esprit. En fait, c'est toute une question de foi. Ce qui est dans le ciel doit s'établir sur la terre. Mais entre-temps, il faut que ta conscience soit purifiée afin que ton cœur croie. Si ta conscience est mauvaise, ton cœur ne croira jamais. Et tu auras l'obstacle de dire, Seigneur, tu nous as encore abandonnés. Je suis obligé d'arrêter là, parce que le temps là. Mais voilà un peu ce qui s'est passé. Un peu plus de 3 heures résumées en une demi-heure, c'est compliqué, mais merci pour vos prières. Ce qu'il fait là-bas, il le fait tout ailleurs. Et je crois qu'on prend conscience que ben il faut reprendre les armes. Hein. Amen. Mais celle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.